Radio.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, c'est l'ami Vincent Dessureau qui est là. Salut Vincent.
Salut Richard.
Écoute, la première page du National Post, je sais pas si tu as vu ça.
Non.
Suspend all India flights.
Oui, oui.
Fait qu'ils disent, là, il faut plus qu'il y ait un maudit vol en provenance de l'Inde qui débarque ici.
Ouais, puis je suis quand même d'accord. Je comprends que, écoute, il y a des gens qui ont des bonnes raisons. Ils trouveront peut-être des alternatives, mais on l'a pas fait dans toutes les vagues, là, fermer les frontières assez rapidement. Et là, avec l'Inde, on a tout un problème. En fait, c'est en train de devenir, il va falloir, on est quand même là dans la COVID. Souvent, on pense à notre propre survie là avant oui. tout. Je comprends, là, même les problèmes du monde passent après parce qu'on essaie de survivre en tant que famille, même là, chacun dans nos petites bulles. Mais là, en Inde, c'est en train de devenir, une crise humanitaire majeure. Là. Crise humanitaire, parce que ça va empirer là encore énormément. Sachant, hier, c'était le record. Là, presque 300 000 nouveaux cas de COVID confirmés. Puis on s'entend que pour l'Inde, les chiffres sont sous-estimés. Là. Ils n'ont pas les systèmes de tests aussi efficaces de façon généralisée dans un si grand pays où il y a beaucoup de pauvreté. Là. Donc, 300 000 cas juste hier, ça, c'est un record. Donc là, si les hôpitaux, le système hospitalier craquent déjà de partout, ça, c'était pour quand il y avait 100 000 cas. Parce que la courbe là en Inde, c'est pas une courbe qui monte, c'est juste vers le haut, là, mais...
Mais ils vont faire quoi? Ils vont les hospitaliser où?
Bon, là, tu vois, dans les dernières heures, honnêtement, les nouvelles font peur. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même commencer à penser à qu'est-ce qu'on fait là avec l'Inde. Il y a eu le Brésil, les deux pays qui deviennent des bassins à variants extrêmement dangereux. On voit qu'il y en a un, d'ailleurs, en Inde, qu'on aimerait bien qu'il ne s'en vienne pas au Canada, là, le variant, le double variant. T'as vu l'histoire des crématoriums? Les crématoriums en Inde qui ne fournissent plus. En fait, certains crématoriums qui brûlent 80 corps par jour. C'est 24 heures sur 24, de sorte que certains crématoriums, c'est arrivé entre autres à Surat et dans une autre ville indienne, les crématoriums s'effondrent parce que les cheminées, tout ça, ne tiennent plus la chaleur.
Ben voyons,
parce que c'est pas fait pour brûler des corps
tout le
sans
temps.
Arrêt. Également, manque de combustible, de sorte que on demande aux familles, dans certains cas, là, évidemment, c'est pas uniforme, là, c'est un grand pays, d'amener leur propre combustible pour brûler leurs morts. Brûler le membre de incinérer un membre de leur famille, faut que t'apportes ton bois parce qu'ils en ont plus. On voit aussi parce que les prix pour la crémation ont explosé x20. Plusieurs familles ne sont pas capables de se payer ça, de sorte que il y a des familles qui brûlaient des proches dans des parcs parce que ils étaient incapables de payer une crémation normal. Les cimetières sont pleins aussi, reçoivent plusieurs corps, dans certains cas, par à l'heure. Imagine, toi, tu passes devant à côté d'un cimetière, là. Il y a rarement de l'action, là.
Ben ouais.
Des fois, tu vas voir, il y a une cérémonie. Mais là, imagine plusieurs cérémonies à l'heure. C'est ce qu'on voit présentement en Inde. Et sur les réseaux sociaux, c'est rendu la course aux places. Là. Je voyais, là, beaucoup d'Indiens ont des cellulaires connectés et tout ça. Et là, les appels, c'est sur Internet pour essayer de trouver des places dans les hôpitaux pour leurs proches. Il y a même un mot-clic, un hashtag COVID-SOS où les Indiens essaient de trouver. Ils donnent la description en disant, écoute, on a mon père est à 62 au niveau de l'oxygénation, besoin d'une place d'urgence. Puis là, ça devient viral. Il y a quelqu'un qui trouve une place dans un hôpital un peu plus loin, dans une autre région. Il déplace la personne là-bas. On en est là, en Inde.
C'est d'autant plus ironique. L'ironie de la chose, c'est que c'est eux autres qui nous ont vendu des vaccins.
Ben, non seulement les vaccins, mais l'oxygène aussi. Les Indiens étaient capables de doubler leur exportation d'oxygène alors qu'eux-mêmes manque d'oxygène dans les hôpitaux. D'ailleurs, il est arrivé un incident hier, 22 morts, un bris dans une machine à oxygène, 22 morts d'un coup, donc dans un hôpital. Tu vois que c'est des systèmes un peu bric-à-brac par endroit. Et oui, il faut rappeler que là, on regarde l'Inde. Bon, c'est l'Inde, c'est eux qui nous envoient les vaccins. Ils envoient un peu partout dans le monde de l'oxygène, plein de produits médicaux dont on a bien besoin. Et eux ne se sont pas tout refermés en disant on va garder tout pour nous. Et ça, on leur en doit quand même une là-dessus. Et ce sera vraiment, je pense, un des endroits à surveiller. Surtout que c'est vraiment pas sur le bord de se calmer. Et la raison de tout ça, tu sais c'est quoi à la base? Parce que l'Inde a eu deux vagues seulement. Ils sont dans leur deuxième vague, eux. Et la première, le la pire journée, c'était 100 000 cas. Là, tu vois, on est à 300 000 et ça monte. Eux, la première vague, là, c'était 100 000 et on avait mis des mesures en place. Il y avait des confinements, on avait...
Mais c'est respecté.
Ben, ils ont retiré beaucoup trop tôt. On a déclaré victoire trop tôt en Inde.
Mais tu vois, en Inde, tu vois comme les soldats qui fessent à coups de bâton sur les gens pour...
Ils font faire des push-ups dans la rue. Si tu respectes pas les règles, ils te donnent des coups de bâton. Écoute, c'est désespéré la situation là-bas, mais à la base, c'est quand même un rappel. Ça allait bien, ça allait plutôt bien en Inde. Le problème, c'est que on a relâché les mesures.
Tu vois les images, ça ressemble au film de science-fiction Soleil Vert, là, des années 70.
Ben, t'as raison. Ils ont perdu complètement le contrôle. Donc, ça va être vraiment une tragédie humaine qu'on devra malheureusement regarder dans les prochaines semaines.
Là, tu vas me parler d'un sujet, je comprends pas. T'as essayé de m'expliquer la crypto-monnaie, t'expliques bien, je comprends pas. Ton ami, Adrien Pouliot, qui est un prof de maths, qui a déjà été un prof de maths.
Oui, mais il est peut-être meilleur pour expliquer ça. Je donne ça.
Il m'a expliqué la crypto monnaie, je comprends rien là-dedans. Bref.
Ben, je t'en expliquerai pas beaucoup plus dans ce cas-là. Je veux juste un mot sur est-ce que là, c'est rendu... t'as peut-être suivi la saga du Dogecoin. J'ai failli même, il y a quelques semaines, acheter du Dogecoin, là, qui est une crypto-monnaie joke. Okay, qui a été lancé en 2013, qui était juste une blague là, pour ridiculiser un peu où les alternatives au Bitcoin qui poussaient un petit peu partout. Donc, c'est basé sur des memes. Là. En fait, c'est un chien japonais, l'espèce de logo, là, un chien Shibu, si je me trompe pas. Et on fait des memes drôles avec comme quoi c'est bien hot, le Dogecoin. Au début, ça s'est servi parce que vu que ça valait quelques sous, là, le Bitcoin valait déjà des centaines de dollars ou des milliers de dollars. Donc, le Dogecoin valant 2 sous, admettons, c'est facile d'en acheter... facile à transiger dans des jeux vidéo. Des fois, tu pouvais... ça avait une certaine facilité de transfert. Le problème, là, entre autres, Elon Musk est embarqué là-dedans. De sorte que là, des milliardaires se sont mis à trouver ça bien drôle de faire monter le Dogecoin en publiant des memes, là, donc des petits montages drôles où tu vois le Dogecoin face à Wall Street ou d'autres trucs comme ça. Et là, vu que c'est hilarant, Richard, de rire de Wall Street, ça s'est mis à monter. Et là, le Dogecoin vaut... En fait, ça valait, il y a peut-être 2 semaines, 5 sous, c'est rendu à 31 sous.
Hey, donc, c'est une joke, là.
C'est une crypto-monnaie blague. Ça fonctionne pour vrai, là. C'est juste que ça... Écoute, la valeur réelle, c'est zéro, là, à part que ça a été moussé. Et là, tu dis, je lisais entre autres un bon texte d'un des analystes économiques de Bloomberg qui lui disait, OK, on nous demande à nous, des analystes, là, d'expliquer un phénomène comme ça, mais c'est pas possible, là. C'est juste n'importe quoi à un certain moment. Et on se dit, est-ce qu'on est arrivé au bout d'une certaine logique? Parce que lui, ce qu'il raconte, entre autres, c'est que les gens derrière qui poussent le Bitcoin, beaucoup vont dire, ah, mais c'est une bonne façon, tu sais, de déjouer la Fed, les banques, les systèmes centralisés. Un peu comme si eux avaient trouvé vraiment une façon géniale, là, de transiger. Mais tout ça, là, le côté vertu, avec le Dogecoin, il n'y a plus rien qui tient. Parce que c'était une joke. Et ça a été créé comme une joke. Donc, de voir à quel point... Et on dit, si t'as investi là en Dogecoin récemment, tu te fais plus d'argent qu'avec le Bitcoin. Alors, est-ce que ça montre pas un peu qu'il y a quand même un grand risque que ce soit tout ça une belle spéculation? Parce que c'est beau faire de l'argent avec le Dogecoin, mais si vous perdez de l'argent avec le Dogecoin, là, vous allez faire rire de vous pas mal. Et je sais pas si t'as vu cette histoire de la crypto-monnaie québécoise aujourd'hui dans le journal, le Marson Exchange, où des gens ont perdu des milliers de dollars. T'as un gars de Laval qui dit, hey, je pars ma crypto-monnaie. Achète des influenceurs en disant je te donne de ma monnaie en échange. Puis là, si tu fais la promotion de ça, ben ta monnaie vaut plus cher, donc tu fais de l'argent. Et comme ça, il y en a plein qui ont perdu des milliers de dollars.
Est-ce que ça va être comme le Far West? Au début, le Far West, là, c'était comme il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut. Puis après ça, peu à peu, la civilisation est rentrée dans l'Ouest. Puis là, ils ont commencé à avoir des tribunaux. Puis là, ils ont commencé à avoir un maire de ville. Puis là, c'est avoir un système de loi, un code criminel. Puis finalement, ils sont rentrés dans le système.
Oui, bien, c'est quand même beaucoup, ça devient les sites de transactions, je pense qu'ils sont beaucoup plus sûrs qu'avant. Mais moi, je te dis pas que c'est mauvais, là, le Bitcoin, loin de là. C'est juste qu'il faut vraiment être prudent. À la base, c'est une façon de transiger. Voir ça comme une valeur ou tout investir, surtout avec la multiplication des crypto-monnaies et le fait que le plancher, tout ça, là, c'est 0 $. Quand t'achètes une entreprise, t'achètes une maison, t'achètes quelque chose, il y a quand même, c'est rare que la compagnie passe de 100% de sa valeur à zéro. Il y a des crypto-monnaies que ça arrivera peut-être. Et avec le Dogecoin, s'il y en a qui mettent des milliers de dollars là-dedans, tu joues au casino avec la machine la plus à risque. Là.
Mais oui, c'est enfin, ça.
Alors, faut au moins le savoir.
Le résultat, c'est qu'il y en a qui ont perdu, des gens de 20-25 ans qui ont perdu 50 000 piastres.
Oui, exact.
Surprise, surprise extrême en Irak.
Je vais finir là-dessus. As-tu vu cette histoire-là en Irak? Parce qu'en Irak, pour le ramadan, on dit qu'il y a un peu une tradition où il y a des shows un peu à la surprise. On va prendre des vedettes locales en Irak pour évidemment les mettre dans des situations loufoques puis rire de tout ça. C'est un hit sur les réseaux nationaux en Irak. Mais là, cette année, il y a une version extrême qui s'appelle Taneb Rislan, où on prend des vedettes, OK? Admettons, on a pris, entre autres, un joueur de soccer, là, ultra connu dans tout le pays, là, qui joue pour la grosse équipe irakienne. Et là, on lui dit, hey, viens rencontrer des familles qui se sont sauvées de ISIS et tout ça pour les rencontrer pour une charité. Et là, il s'en va les rencontrer. Et là, à un moment donné, explosion, et ils rentrent des terroristes de l'État islamique qui l'enlèvent, vont lui mettre une ceinture de bombe autour de lui, menacer de le tuer. Là, il pleure, il crie, il implore pour sa vie. Là, il y a des tirs partout. Et là, à la fin, on lui apprend...
Que Marcel Béliveau qui sort d'une dune puis qui dit c'est une joke.
En fait, j'oublie une étape, c'est que ensuite il arrive des gens, des militaires, des paramilitaires qui vont ouvrir les portes et sauver tout le monde. Et ça, c'est ceux qui financent ce show-là, qui sont un groupe paramilitaire qui avait entre autres combattu ISIS en Irak. Et qui veulent vous montrer un peu que c'est eux qui sont toujours là pour save the day.
Non, mais attends, mais là, je les poursuivrais, mais pour 100 millions de dollars.
Ben, entre autres, il y a une actrice connue en Irak qui, elle, a fait la même chose. Elle s'est fait prendre et elle, on lui a mis la ceinture de bombe et elle s'est évanouie, là, au moment, parce que, écoute, elle hurle, les images sont dures à regarder, là. Elle hurle, elle a l'impression qu'elle va se faire décapiter dans les prochaines secondes, là.
C'est une joke.
Et là, elle s'évanouit pendant plusieurs minutes au point où on va lui mettre de l'eau dans le visage pour qu'elle se réveille. Puis là, elle se réveille, elle a une ceinture de bombe, il y a des tirs partout, des tirs à blanc, mais elle a l'impression qu'elle va exploser d'une seconde à l'autre. Et finalement, ben non, là, les militaires arrivent pour sauver, puis là, on lui apprend, puis là, tout le monde se met à applaudir, ouais! Alors que la personne est en pleurs.
Et c'est quoi la réaction de la personne après?
Ben écoute, ils sont en furie, là, et les Irakiens aussi, ça passe pas du tout, là. La pilule de show-là, c'est pas un hit, tout le monde n'en revient pas, ça veut dire que ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Réclame que cette émission soit retirée des ondes, en disant ça va être quoi la prochaine étape, le lancer du monde en bas des ponts comme le faisait l'État islamique, où les brûlaient dans des cages, mais que finalement ils se font éteindre juste avant que ça brûle. Et il y a comme pas de limite.
Ils te lancent en bas d'un pont, ben il y a comme un coussin en bas.
Oui,
comme...
t'avais mis un bungee.
Dans une cage dans l'eau, là t'es en train de te noyer puis ils te sortent. Tu dis, l'humour c'est culturel, hein?
Ça, c'est parce que ça a passé plusieurs étapes, ce show-là. Il y avait des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des producteurs, il y a un diffuseur qui acceptait ça, il y a un directeur de programmation, il y a tout ça. Là.
Non,
tout
le monde a dit... Ça, c'est au Québec, ça.
Tout le monde a dit c'est une bonne
ça,
idée.
En Irak, pas
ben, c'est la H... Écoute, faut croire qu'ils ont du pouvoir. La Hached al-Shabi, coalition paramilitaire, qu'elle voulait montrer qu'ils étaient là pour
avec
toujours sauver, défaire les terroristes. Alors, ça fait leur auto-promotion.
Ils veulent faire rire le peuple.
Ben oui, ils ont besoin de rire.
T'sais, quoi de mieux que de mettre en scène la guerre, la torture, la violence pour faire rire?
Ben oui.
Dans un pays qui a été traumatisé esprit. Par la guerre pour aller chercher un petit peu les vieilles blessures. D'ailleurs, le joueur de soccer dont je vous parlais a dû prendre une pause de sa carrière de soccer pour se remettre du tournage. Alors, il a dû prendre une pause.
J'en reviens pas. Merci beaucoup.
C'est pour rire.
Des blagues.
Est-ce qu'on va rire à ton show? Moi, j'ai besoin de rire. Alors, vas-tu rire à ton émission?
Est-ce qu'on va rire? Pas sûr. On va parler à 10h30. On va rejoindre M. Château, qui est à Minneapolis depuis 20 ans. Il habite là. Vous l'avez reçu hier.
Il est excellent, manquez-le pas.
Brièvement. Fait que nous, on va le faire. C'est Alex qui l'a sorti. La réaction. Puis en passant, aujourd'hui, Minneapolis, ça fait 5 ans que Prince est mort d'overdose. Ouais. Fait que c'était un fils de Minneapolis.
Là, oui.
Il habitait là. Donc, c'est quand même particulier. Et M. Écoute, Charles...
Écoutes-tu ça encore du Prince, toi?
Non.
Mais non.
Non, mais c'était trop
aigu. Toi, Vincent, écoutes-tu
non,
du Prince?
Ben,
c'était trop aigu.
C'est l'homme qui a fait
moi.
Le plus de chansons pour le... un petit nombre de hits, là, parce que lui, il en a fait des centaines.
Oui,
on s'en souvient de 3.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas...
Non, non, il y a un méchant catalogue.
Ouais.
Là, c'était un culte.
Un long catalogue.
Oui, non. Hey,
je trouve pas ça très bon, je m'excuse.
Ben non, ben ça c'est correct. Mais t'es habillé en mauve avec des talons hauts.
Non, mais il y a
c'est un choix personnel.
As-tu vu son film?
Purple Rain, c'était extraordinaire.
Ah non, c'est épouvantable.
C'est extraordinaire. C'est épouvantable. C'était bon. Mais non, c'était l'époque.
Mais à part Purple Rain, puis...
Dis-moi que t'as jamais eu de gros cheveux, toi.
Ah, oui.
Ben oui, t'as eu des grands. Hey, t'sais, l'époque.
Et là, il y a une scène...
La cancel culture, là, tu sais, on va...
Il y a une scène où son beau-père bat sa mère.
Ben oui.
Là, Prince, il veut défendre sa mère, puis part à courir avec ses talons hauts.
Ben oui.
Tout en mauve,
ben
là.
Ben oui, il est fâché. Hey!
Mais il a fait une bonne mi-temps du Super Bowl. Je donne ça.
Il était extraordinaire.
Vraiment
2007,
bon,
je pense.
Tout un showman. Ça,
j'avais reçu André Boitler, j'étais à TQS. Puis André Boitler vient en entrevue parler de politique. Puis je dis, avez-vous regardé le Super Bowl hier, tu sais? Puis là, il me dévisage comme si j'essayais de le piéger. Moi, j'essayais juste de l'humaniser un peu, là, qu'ils disent, ouais, j'ai regardé ça avec des amis, ou avec, tu sais, puis on a regardé à mi-temps, puis c'était cool. Juste du small talk, tu sais, pour commencer l'entrevue.
Pour les 5 ans de la...
Il voulait
pour les 5 ans de la mort de Prince, tu pourrais l'avoir, André Boitler, aujourd'hui, qui pourrait te parler de ça?
On peut faire là-devant. Bref, à 11h, on a Alain Babineau, l'ancien policier de la GRC, qui va revenir sur le procès de Chauvin. Ça s'est réglé hier. C'est une bonne décision. Tu vas tout de suite après à Columbus, en Ohio. Il y a un policier qui a abattu une adolescente noire qui avait un couteau dans les mains qui allait s'en prendre à une autre adolescente noire. Puis là, tu dis est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser le taser? Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une autre intervention? En même temps, tu fais quoi? T'es policier, t'es dans la rue, tu vois un individu avoir un poignard, un couteau dans les mains, puis qui vise l'autre personne qui est sur la voiture, puis tu sais que ça va se décider comme ça. C'est pas une job facile.
Parce que c'est un policier blanc?
Je ne sais pas, je l'ai...
Mais ils ont publié toutes les caméras. Je pense qu'ils voulaient vraiment montrer que tu vois que la scène, c'est le chaos, là, et pas à cause des policiers,
c'est...
là.
Hey, c'est un moment de violence, là. On n'est pas formés, nous autres, en tout cas, les civils, on n'est pas formés.
Ça, Chauvin, c'est un autre truc.
Chauvin avait 9 minutes pour répondre.
Chauvin, c'est une autre affaire.
Là, c'est
là.
Sur la seconde.
C'est aberrant. Moi, je veux savoir ce qui va arriver aux autres policiers qui n'ont rien fait.
Ben, exactement.
Ça aussi, eux autres aussi sont complices. Et à midi, on aura Nancy Delagrave, parce que là, on a eu les résultats de la qualité de l'air dans les écoles, mais de, tu sais, on sort ça au mois d'avril, on voulait ça au mois de décembre. Ouais. C'est comme si on prenait pas ça au sérieux, on n'avait pas pris ça au sérieux, et pourtant, il y a eu des éclosions dans les écoles au Québec.
Et la moitié des écoles testées n'ont pas respecté les normes, ouais. Donc ça va pas très bien. Bon, on va rire un peu quand même.
Ah, oh, écoute. Hein, on va peut-être faire jouer un extrait de surprise en Irak.
Ah, OK.
Non. Ça, c'est drôle. Prince. Il neige dehors, mon Dieu.
On va te mettre une ceinture de bombe. Puis,
mais avez-vous été pris, vous, à Surprise dans le temps que c'est revenu? Non, vous êtes pas...
Non, moi je travaillais avec Surprise. Ils m'ont demandé pour piéger un Renaud Mirois.
OK.
Avec qui je travaillais, puis tout ça.
Puis t'as refusé.
Et, non, j'ai accepté, mais finalement, René, il l'a su. Qu'il était en tabarnane contre moi.
Il était furieux. Que tu voulais le prendre?
Oui, que j'avais participé avec Surprise pour le piéger. Il était furieux, finalement.
Bon. Mais moi, mon inquiétude là-dedans, quand tu vois des vedettes qui soupaient, là, mettons, dans une joke, là, mais tu dis, pendant les 2-3 heures qu'ils parlent, là, ils doivent déblatérer, je veux dire, sur du monde du domaine.
Ouais, moi, je connais les gens là, qui faisaient ça juste pour rire.
Ils devaient en apprendre beaucoup. Là.
Je les connais, les réalisateurs, tout ça. Là.
Faut avoir des extraits que tu supprimais rapidement.
Oui. Il y a bien des affaires qu'on ne sait pas.
Ouais.
Et que tu apprends dans un 5 à 7.
C'est ça se raconte.
Bien arrosé. Hey, tu savais-tu, là, tu sais, dans le sous-sol, quand ils ont trouvé de l'argent avec lui, puis elle, là, puis lui, ben, il voulait partir avec, puis là, on a arrêté de tourner, parce que là, on allait courir après, parce qu'il partait avec l'argent pour le vrai.
Je savais.
Jusqu'où tu protèges les participants de l'émission, s'ils font vraiment des conneries?
Jusqu'où tu protèges ta capacité à te faire poursuivre?
Alors, merci à l'équipe, Carl Marchand à la recherche et Maude Boutet. Merci beaucoup. Achille Moinet à la console, à la réalisation. On se reparle demain, 8h, et on écoute Benoît.